Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui sera aujourd'hui consacrée à une saga culte. Quelques notes et vous reconnaissez forcément Star Wars. Un nouveau film est annoncé ainsi qu'une dizaine de séries qui seront diffusées sur la plateforme Disney+. Alors 43 ans après le premier Star Wars, pourquoi cet univers fascine-t-il toujours autant ? C'est notre récit du jour. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Camille Cotin qui nous parlera de ses meilleurs souvenirs de cinéma. Allez, un indice, tiens, son premier souvenir en salle. Et vous avez reconnu Mary Poppins. Rendez-vous tout à l'heure pour découvrir le reste de ce questionnaire de Proust version cinéma signé Camille Cotin. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films à voir ou revoir sur vos plateformes ou en DVD VOD. Au programme aujourd'hui, le blues de Ma Rainey sur Netflix. On débattra aussi des filles du Dr March qui débarque sur OCS. Et puis de La Reine des Neiges numéro 2 et de Brooklyn Affairs sur Canal et en VOD. Voilà pour le programme de votre Clap. Et d'abord, donc, notre récit consacré à la saga Star Wars.
Europe 1. Le récit.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, ça y est, vous visualisez forcément cet écran noir avec ses lettres jaunes qui défilent et nous racontent le préambule de la grande histoire Star Wars. La musique est signée John Williams et le film va devenir l'un des plus grands succès d'Hollywood. Pourtant, lors de sa sortie, la Fox n'y croyait pas vraiment. George Lucas est un jeune réalisateur, geek, fan de Flash Gordon, et son premier film, American Graffiti, a rencontré un certain succès, ce qui lui permet d'ailleurs d'obtenir les financements nécessaires pour le deuxième. Il a une idée précise en tête, faire un film de science-fiction et même plus précisément un space opéra. Quand je vous disais que la Fox n'y croyait pas vraiment, le film sort au départ aux États-Unis dans 32 salles seulement.
T2 vient de localiser le poste de contrôle du rayon magnétique qui empêche le décollage. La coupure d'un seul branchement neutraliserait le rayon.
Je crois que je pourrais le couper.
Et je veux aller avec
vous. Un peu de patience, Luc.
Ta destinée est de suivre un autre chemin que le mien. Que la force soit avec toi.
Pourtant, c'est un carton. De longues files d'attente se forment devant les quelques cinémas qu'il projette. Le public surréagit devant les effets spéciaux et les vaisseaux spatiaux. Incroyable ! Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a encore jamais vu ça. Un tel niveau d'effets spéciaux. Ce premier Star Wars, La Guerre des Étoiles, c'est comme ça qu'il s'appelle en France, restera un an en salle et finira par gagner 6 Oscars. Et là où George Lucas est déjà un grand malin, c'est que dans son contrat avec la Fox, il renonce à son salaire de réalisateur, mais garde en échange tous les droits sur les produits dérivés du film. À l'époque, le marché des produits dérivés est rikiki. Alors la Fox accepte sans se méfier, ils vont le regretter, c'est le moins que l'on puisse dire, car le public s'arrache les goodies. Sabre laser, peluche de Yoda, masque de Dark Vador, figurines de tous les personnages. On estime aujourd'hui qu'ils auraient rapporté entre 20 et 30 milliards de dollars depuis la création de l'univers Star Wars. En plus, c'est un cercle vertueux, puisque les fans des films achètent des produits dérivés et que les fans des produits dérivés vont ensuite découvrir les films. Autre preuve du génie de George Lucas, c'est qu'à l'époque, il fait appel à des comédiens quasi débutants. Carrie Fisher pour le rôle de l'inoubliable princesse Leia, Mark Hamill dans celui de Luke Skywalker. Seul Harrison Ford avait déjà tourné avec George Lucas, l'acteur qui revenait au micro d'Europe 1 sur cette incroyable aventure.
Star Wars, le succès du film, le fait que j'y ai participé, ça a vraiment lancé ma carrière et je serai toujours reconnaissant pour ça. Évidemment, on sent qu'on a une responsabilité envers ceux qui soutiennent cette saga et on veut leur donner satisfaction.
Alors je disais que George Lucas avait été malin de se priver d'acteurs stars, car ça lui a permis de ne pas les payer trop cher et de concentrer l'essentiel de son budget sur les effets spéciaux et le tournage en Tunisie. Il crée même ILM, Industrial Light and Magic, qui devient le studio d'effets spéciaux le plus performant au monde. Écoutez George Lucas en parler au micro d'Europe 1.
The issue of the story is always, I guess,
en fait, c'est plutôt les critiques qui ont eu cette réflexion que c'était trop d'effets justement visuels, qu'il n'y avait pas assez d'histoire, que c'était pas assez dramatique. Et tout ça, c'est vraiment, en fait, beaucoup plus les critiques qui ont émis tout cela que les fans. Il faut voir un peu cette saga comme, en fait, un peu un film muet.
Alors, on a beaucoup reproché ces dernières années à Disney, une fois la franchise achetée, d'avoir relancé une nouvelle trilogie sur la saga Skywalker, la saga d'origine. Et pourtant, dès le départ, Lucas le visionnaire avait construit son aventure en trois trilogies. Il en parlait dès 1977. Alors, en 1980 et 1983 sortiront les deux derniers films de la première trilogie. J'espère que vous me suivez. L'Empire contre-attaque, puis le retour du Jedi.
Mon Excellence espère que vous mourrez honorablement.
Cispero, tu vas dire à cette espèce de grosse limace baveuse et véreuse qu'aucun de nous ne lui fera jamais ce plaisir. D'accord ?
Jabba, c'est ta dernière chance. Libère-nous ou tu mourras.
Sans tout graser.
Comment un film de science-fiction, donc d'un genre si particulier, a-t-il pu toucher un public aussi large? George Lucas le disait lui-même, les bases de l'histoire sont mythologiques, politiques et sociales, autrement dit universelles. Et puis il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est en pleine guerre froide et l'espace n'est qu'un décor pour parler de ce qui se passe dans le monde réel. Ça, les spectateurs l'ont bien compris. Les références historiques sont nombreuses, la planète Alderaan, qui ressemble beaucoup à la Terre, est détruite par l'étoile de la mort, l'arme la plus puissante de l'Empire. Ça ne vous fait penser à rien ? À la guerre froide et à l'arme nucléaire, bien sûr. Les Stormtroopers aussi ont souvent été comparés aux soldats nazis. Et puis on pourrait aussi parler de la victoire des Ewoks dans le Retour du Jedi, un peuple primitif qui a su gagner contre un empire puissant, comme les Viet Cong contre l'armée américaine. Certains vont même plus loin, comme l'historien Thomas Negaroff. Pour lui, Star Wars a anticipé ce qui se passe dans le monde actuel. Quand on voit la radicalisation de Dark Vador, on peut penser, dit-il, à l'État islamique.
Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur.
Jamais je ne céderai. Et vous vous serez forcé de me tuer.
Si tel est ton destin, l'Empereur te montrera la vraie nature de la Force.
Star Wars parlerait donc de l'Amérique et plus généralement de notre monde d'humains. Mais c'est aussi une thématique universelle qui a sans doute fait son succès. La famille. Anakin est devenu Dark Vador suite à sa colère accumulée après l'assassinat de sa mère. Luke, lui, se retrouve face à Dark Vador qui lui révèle alors son secret et cette fameuse phrase connue de tous
« Je suis ton père ».
Luke découvre ainsi sa filiation. Dans la trilogie un peu plus récente, Kylo Ren est attiré par les forces du mal, tout comme son grand-père avant lui, prouvant finalement qu'on échappe difficilement à son héritage. Des sujets traités de façon romanesque, mais qui nous parlent à tous. Autre élément important, c'est qu'à la différence d'autres films de science-fiction comme Blade Runner ou Matrix, il y a toujours de l'espoir dans Star Wars. Ce n'est pas une saga angoissante. Malgré cela, il faudra quand même attendre 22 ans pour que débute la deuxième trilogie Star Wars. En 1999, la menace fantôme arrive sur nos écrans. Cette fois, l'histoire se passe avant la guerre des étoiles, alors que Dark Vador est un enfant en pleine formation Jedi.
Vous faites allusion à la prophétie de celui qui viendra équilibrer la Force ? Vous pensez que ce serait cet enfant ?
Il voit les choses avant qu'elles se produisent.
Il peut vous aider.
La Force est d'une intensité inhabituelle avec lui.
Tout le prédestiné à vous aider.
Anakin ! Dis-leur de décoller !
Anakin Skywalker, je te présente Obi-Wan Kenobi.
Et c'est un nouveau carton. Plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office. La nouvelle trilogie, ou prélogie, mélange des acteurs connus comme Samuel L. Jackson avec des jeunes plus ou moins connus, Natalie Portman notamment dans le rôle de la sénatrice Amidala. Avec cette nouvelle trilogie, George Lucas touche un public plus jeune qui souvent n'était même pas né lors de la sortie de la première trilogie. Et rebelote en 2015, après que Disney ait racheté la franchise pour 4 milliards de dollars. Et même si certains fans historiques crient au blasphème, le réveil de la Force engrange 2 milliards de recettes. Cette fois-ci, l'héroïne est une femme Jedi, Rey. Disney s'adapte à la société.
La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi.
Chewie, on est à la maison.
Et fort de ce nouveau succès, Disney décide de multiplier les déclinaisons Star Wars. Des séries animées voient le jour, ou encore The Mandalorian, qui fait aujourd'hui les belles heures de Disney+. Disney a donc finalement annoncé un film pour 2023, ainsi qu'une dizaine de séries, et un hôtel Star Wars, qui devrait par ailleurs ouvrir aux États-Unis, compter quand même 3 000 € pour 2 nuits. Star Wars, justement, on continue d'en parler dans un tout petit instant avec notre invité Patrice Giraud, grand spécialiste de l'univers. Mais d'abord, on va s'écouter Dionysos, Song for Jedi. On est dans le thème, vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Song for Jedi, signé Dionysos. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1 et qui vous raconte aujourd'hui la grande saga Star Wars. On continue d'en parler dans un tout petit instant avec notre invité.
Clap, Mathieu Charrier.
Et dans le studio de Clap, je suis très heureux d'accueillir maintenant Patrice Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'univers Star Wars, co-auteur du livre Star Wars, objet du mythe. Puisque je voulais qu'avec vous, on continue de parler de cette saga, alors que Disney a annoncé il y a quelques jours un nouveau film pour 2023 et une dizaine de séries dérivées. D'abord, on a l'impression que Star Wars s'essouffle d'un côté, en tout cas la saga Skywalker, puisqu'on est arrivé au bout, et qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant de Star Wars, on n'a jamais autant parlé de Star Wars. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est une équation à double entrée. À la fois, effectivement, ça fait quand même 40 ans qu'on a du Star Wars, alors d'une manière qui était espacée tous les 3 ans, puis tous les 10 ans. Et puis, depuis Disney, c'est pratiquement un film tous les ans. Donc à la fois il y a une sorte d'usure, hein, mais ça c'est normal sur toutes les franchises, et puis il y a plus la nouveauté et puis l'attente, parce qu'en fait aussi ce que j'explique très souvent, c'est que dans les années 80, quand on a eu les Star Wars qui étaient vraiment le panthéon du cinéma de blockbuster, on attendait 3 ans. voire même le deuxième, on l'attendait même pas. Mais l'épisode 3, comme le Retour du Jedi, on a mis 3 ans à l'attendre. Donc l'attente, de toute façon, c'est... et c'est là, dans ces moments-là, où le merchandising est très important, parce que ça nourrit l'attente. Mais aujourd'hui, effectivement, avec l'annonce, c'est effectivement maintenant... Bah c'est Disney, c'est un groupe.
Faut que ça rapporte.
Faut que ça rapporte. Puis ils ont un tube à remplir. Hein, ils ont le tuyau Disney Plus à remplir. Donc.
Mais il y a un risque que ça s'essouffle et que ça s'arrête peut-être dans 5 ans en disant que les gens en peuvent tellement plus de Star Wars.
Oui,
que...
oui, ça peut arriver parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire, je dirais, du cinéma, notamment avec la franchise Star Trek. Dans les années 90, il y avait 2 séries télé à l'antenne américaine, un film tous les 2-3 ans. Eh ben, la franchise Star Trek, il y a eu une jachère pendant pratiquement 15 ans. Bon, bah, c'est dur de maintenir le... Une fois de plus, je pense qu'ils se mettent, ils chargent la barque à eux d'arriver à satisfaire le public.
Et pour l'instant, ils y arrivent.
Bah, sur les films, déjà, il y a eu beaucoup...
Oui, mais c'est vrai que quand on a vu le 7 arriver, puis le 8, on a eu le sentiment...
Le 7 a cassé quelque chose, justement. Pour la première fois, ce que j'aimais dans Star Wars, c'était ce côté transgénérationnel où on pouvait tous se retrouver. Tout le monde aimait Star Wars. Depuis déjà le 7, la Jedi... Il y a une scission dans le fandom. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Donc déjà, c'est embêtant parce qu'on n'avait jamais vécu ça dans Star Wars. Grosso modo, tout le monde aimait, même plus ou moins, mais on aimait. La Jedi, ça a vraiment coupé. Alors, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais j'ai vu les gens s'insulter. Je n'avais jamais vu ça avant, quoi. Et depuis, bon, voilà. Mais c'est parce que tout d'un coup, Star Wars devient énorme avec la politique de Disney, quoi. Donc, c'est un piège pour eux aussi. Donc, une fois de plus, à eux de le gérer.
Et vous la voyez durer jusqu'à quand, vous, la saga Star Wars?
Il va y avoir, je pense...
Parce que je sens que ça vous taquine, ces 10 séries-là.
Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que la force de ce que j'ai vécu à mon époque, dans les années 80, c'est l'attente qui fait tout aussi.
Ah, là, c'est sûr. Que...
C'est que tout d'un coup, on est là, il va falloir attendre 3 ans, et puis 2 ans, et puis on voit 2-3 photos, et puis on nourrit cette attente, et puis on va voir le film. Alors là, il faut que le film soit à la hauteur des attentes. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'on va avoir une série, 2 séries, donc on va avoir du Star Wars toute l'année. Donc vous voyez, et c'est déjà ce qui est arrivé en cinéma. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que Bob Iger a fait un mea culpa en disant « Ah là, je suis allé trop vite, j'en ai trop mis. » Et hop, un an plus tard, il nous annonce 10 séries, alors qu'il l'avait dit qu'en cinéma...
Il y a tellement d'enjeux financiers, voilà, ça rapporte tellement d'argent.
C'est qu'ils sont coincés. Et bon, voilà, mais de toute façon, à eux d'arriver à fabriquer du contenu. La force, c'est que ça marche fort en télé, donc les chiffres sont bons. Donc on peut imaginer qu'ils vont investir massivement. Maintenant, il faut choisir les bonnes personnes. Si les bonnes personnes sont aux commandes, ça se passera bien.
Ça cartonne dans le monde entier, Star Wars ? Déjà, est-ce que ça a toujours cartonné dans le monde entier ?
Non. Alors déjà, ça n'a pas cartonné dans le monde entier, parce qu'il y avait plein de pays qui n'étaient pas exploités. Je crois que la Chine, ça ne marche pas très fort, parce que d'après ce que j'ai entendu, ils ne sont pas nés avec cette franchise.
Ouais,
elle est arrivée toute neuve avec les nouveaux films Disney, et ils n'ont pas le... Bon, il y a un petit côté peut-être Harrison Ford, vous voyez un vieux bonhomme. Non, mais il n'y a pas ce côté. Pour nous, on ne voyait pas ce personnage-là. On aimait le Harrison Ford qu'on laissait depuis 40 ans. Je sais que dans les pays du Maghreb, ça ne marche pas très fort parce qu'Obi-Wan dans sa toge, c'est con, mais eux, ce n'est pas une vision d'un film de science-fiction, c'est la réalité. Donc, non, mais voilà, ça ne marche pas dans tout. Je sais qu'ils ont beaucoup de mal, effectivement, dans les pays d'Afrique. Et puis, il y a un des pays, il y a beaucoup d'espoir, c'est en Amérique du Sud. Là, il y a encore beaucoup, ils peuvent encore beaucoup exploiter et c'est sous-exploité.
Il y a quelque chose qu'on a rarement dit aussi, c'est que Star Wars, parce que pour les gens, Star Wars, c'est un film de science-fiction, une histoire familiale, mais la force de Star Wars, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'humour, qu'il y a beaucoup de mythes, qu'il y a tous ces ingrédients-là. C'est peut-être ça aussi qui fait le succès encore aujourd'hui, parce que c'est des valeurs universelles et...
Ah bah notamment, vous savez, le tout premier Star Wars de 77, qu'on appelle Un Nouvel Espoir, où le titre français était La Guerre des Étoiles, c'est un film très drôle. C'est à revoir aujourd'hui, c'est le plus drôle de tous les Star Wars. Il y avait une dose d'humour qui fonctionnait très bien, qui d'ailleurs, dès le deuxième, s'est un peu atténué parce que ça devenait la grande saga. Mais dans le premier, il y avait beaucoup d'humour. Alors, il faut créer dans l'univers de George Lucas. C'est ce qu'ils ont un peu fait avec Mandalorian. Ils vont un peu sur la gauche, hop, et on raconte une histoire.
Et on ne doute pas du fait que vous serez toujours vigilant, Patrice Giraud. Et vous viendrez nous dire ce que vous pensez des nouveaux Star Wars, des nouvelles séries. Merci beaucoup d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap, grand spécialiste de l'univers Star Wars. Et je rappelle donc l'un de vos livres, Star Wars, objet du mythe dont vous êtes le co-auteur. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'émission. Et ce sera la séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Camille Cotin qui a accepté de se prêter au jeu parce qu'elle fait l'une des voix de Soul, le nouveau Pixar que vous trouvez sur Disney+. Et donc, elle nous racontera tous ses grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.